Je leur ai demandé de me souffler au micro leur conception du souffle.
À quoi ça pourrait faire penser le souffle ?
Le souffle ?
Le souffle.
Ah, le souffle.
Ah, le souffle.
Le souffle.
Le souffle. Il est beau, mon souffle.
Le souffle.
Le souffle, bah, c'est... Je sais pas, c'est quoi le souffle pour vous ?
Le souffle.
Le souffle du vent, le souffle de la voix, le souffle pour respirer, le souffle. Ça fait plein de souffle. L'air ?
Bah, heureusement, on a du souffle.
L'air, le vent, la vie, tout. Si je peux vous souffler aux oreilles. Vous avez un souffle fort ou un souffle léger ?
La vie, le sport, parce que je fais un petit peu de course à pied. L'amour.
Une bouffée d'air frais, ouais, la vie.
Et bien que le vin chaud, que le vin il est chaud et puis qu'il y a un fou, du coup vous soufflez pour... Voilà.
J'ai tout sauf ça.
Sport.
L'espoir.
Une covicidose.
Le froid.
Ouais.
Le
souffle. Il fait froid par exemple, ça souffle, il fait froid.
C'est ce qu'on respire, non? Ou on inspire, ou je sais pas quoi.
Non, ça, c'est ouais.
Le souffle, ça me fait penser à Galactic Football.
Pourquoi? Oui, il y a le souffle d'Aquilion.
Parce que, ouais, voilà, parce que...
Après, ils ont eu un pouvoir pour jouer au foot.
Et ça s'appelle le souffle, voilà. Leur pouvoir.
C'est respirer. Donc la vie, le souffle, bah, les objets d'art. Bah, la soufflerie, enfin, le verre, quand il souffle dans les verres.
Le vent.
La vie. Respiration, le cœur...
Moi, en fait, le souffle, ce que ça m'évoque, c'est que je suis chanteur. Alors, le souffle, c'est la racine du son. Voilà ce que ça m'évoque.
Un souffle nouveau.
Bah, la respiration.
L'accouchement.
Le vent.
Le vent, bien sûr. Et puis après, la respiration humaine. Et le dernier souffle. Notre dernier souffle. On a vraiment l'impression que la personne, en fait, respire normalement. Et non, c'était le dernier. Mais il est tout calme.
Il lui met un souffle.
C'est bleu. On sait que c'est bleu.
C'est bleu transparent un petit peu. Et ça
voilà.
Fait...
Voilà, ça fait ce goût-là.
Voilà,
mes souffleurs soufflotants n'ont pas soufflé moi du souffle de l'inspiration, celui qui est sans cesse recherché par l'écrivain essoufflé, qui aimerait entendre dans un souffle lui souffler à l'oreille une inspiration à couper le souffle comme un second souffle ou encore le souffle du génie avant qu'il ne se fasse souffler la priorité ou ne soit à bout de souffle.
C'était un micro-totoir sur le souffle par Zoé.
Je ne suis pas Jean-Michel Espitalier. Je ne suis pas Jean-Michel Espitalier car je ne suis pas né en 1957. Je ne suis pas Jean-Michel Espitalier car je ne faisais pas du piano quand j'étais jeune. Je ne suis pas Jean-Michel Espitalier car je ne suis pas un enfant du rock ni de la pop culture. Je ne suis pas Jean-Michel Espitalier car je n'étais pas cofondateur et co-directeur de la revue Java de 1989 à 2006. Je ne suis pas Jean-Michel Espitalier car je n'ai pas écrit de livre. Je n'ai pas écrit Pour de frappe, 1995. Je n'ai pas écrit Limite de manœuvre, 95. Je n'ai pas écrit Gasoil, prise de guerre, 2000. Je n'ai pas écrit Pièce détachée, une anthologie de la poésie française aujourd'hui, 2000. Je n'ai pas écrit Fantaisie Bouchère, grotesque, 2001. Je n'ai pas écrit Le théorème d'Espitalier, 2003. Je n'ai pas écrit Tanger, Marseille, un échange de poésie contemporaine, 2004. Je n'ai pas écrit En guerre, 2004. Je n'ai pas écrit Où va-t-on, 2004. Je n'ai pas écrit Toujours jamais pareil, 2005. Je n'ai pas écrit Caisse à outils, un panorama de la poésie française aujourd'hui, 2006. Je n'ai pas écrit Tractatus Logo Mechanicus, 2006. Je n'ai pas écrit Army, 2008. Je n'ai pas écrit Syd Barrett, Le Rock et autres trucs, 2009. Je n'ai pas écrit Arrivé à Tanger, 2013. Et je ne parlerai pas des créations sonores et autres interventions publiques à travers le monde. Bonsoir Jean-Michel Espitalier.
Bonsoir Périne.
Alors, il faut savoir que Jean-Michel Espitalier est un écrivain, un poète, un bricoleur, un performeur, un musicien ou un hub. Est-ce qu'il faut choisir ou est-ce que Jean-Michel Espitalier peut être tout ça ?
Non, tout ça parce que bah oui, si on doit choisir, c'est fini quoi. Le choix, ça implique la fin de la réponse. Non, je sais pas trop ce que je suis. Ouais, j'aime bien ce terme de bricolage, de bricoleur, parce que le bricoleur, il sait pas trop ce qu'il fait. Il a des outils qui sont en général assez mal foutus. Moi, quand j'écris, c'est vrai que sauf exception, en général, quand je démarre quelque chose, je sais pas trop où ça va. C'est des petits bricolages, justement.
Et pas part de hasard, de chance.
Oui, ou de. Je sais pas, on est percuté par un mot, par une idée, par une image, par un son, etc. Et puis, parfois, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on va travailler et puis ça donne rien. Et puis, parfois, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est la magie de l'écriture ou de la création au sens large. Et ça, c'est assez génial. Alors après, il faut travailler, bien sûr. Il faut y aller, quoi, avec les outils. Il faut sans... Moi, je suis très lent. Je travaille beaucoup, mais je suis très lent. Donc, je relis sans arrêt, etc. Je suis jamais vraiment content de moi. Et donc voilà, donc en fait les bouquins, moi je sais que souvent ils m'échappent parce que je pensais écrire un livre sur une guitare sèche que je vois en face de moi et puis en fait ça va finir sur la ville du Mans par exemple, voilà. Et j'aime bien ces espèces de dérivations.
D'accord. Et justement, ça c'est drôle puisque un de vos livres s'appelle Caisse à outils. Alors, est-ce que vous vous baladez tout le temps finalement avec une caisse à outils qui serait un trop-plein d'idées, un accessoire, quelque chose qui...
Non, je pense que je suis un bricoleur raté. Non, parce que je bricole pas du tout. Et c'est vrai que j'ai souvent utilisé les métaphores liées au bricolage, hein, pièces détachées, caisse à outils, gasoil, si on veut. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté machinique, en fait, des choses.
D'accord.
La poésie, si on doit employer ce terme, en tout cas la littérature, ou la création, plus généralement, c'est souvent, enfin, pour moi, c'est souvent quelque chose qui a à voir avec une machine. C'est-à-dire que c'est un assemblage d'éléments disparates qui se mettent à un moment à fonctionner. Et ça, c'est assez génial, justement, c'est que... Et là, ça fait livre, ou ça fait œuvre sonore, ou ce qu'on voudra. Mais donc, j'aime bien cette espèce d'idée de la... d'une caisse à outils, c'est-à-dire qu'une caisse, il y a plein de choses, parfois qui servent à rien. Et puis ce qui sert à rien, parfois ça peut devenir ce qui sert, enfin la chose qu'on va utiliser.
Ou qui servira plus tard. Ou...
Voilà. Ouais. Moi quand j'écris, quand je travaille, sur mon Mac, j'ai des stocks de par exemple de listes. Alors parfois ça me prend un temps fou. Hein. Je vais faire une liste sur. Et puis je me dis, ça me servira un jour. Et ça peut passer. Enfin, je peux rester 5 ou 6 ans avec cette liste qui va dormir. Et puis, hop, un jour, elle va s'intégrer dans un bouquin parce que je me dis c'est là qu'elle devait être.
Je rebondis sur le mot liste. Vous dites que vous utilisez souvent la liste. En fait, c'est quelque chose qui est pour vous important. Il y a beaucoup aussi de poètes qui utilisent la liste. Le fait aussi d'avoir justement cette mécanique, cette roue qui tourne, dans quelque chose qui est dans la boucle répétitive. Et peut-être que ça serait bien. D'aller dans cette roue et dans cette machine qui s'articule comme ça en écoutant tout de suite Autobiographie, qui est quand même quelque chose assez rythmique.
C'est pas une liste, mais c'est, oui, c'est
non,
ça,
mais
ça,
du
c'est,
moins,
c'est des boucles.
Voilà, une sorte de boucle sonore. Et bien alors tout de suite, Autobiographie.
C'est la première fois que je dis que 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 c'est la première f
deuxième fois que je dis que c'est la première fois que c'est la deuxième fois que je dis que c'est la première fois que c'est la deuxième fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis que c'est la deuxième fois que c'est la première fois que je dis
plus que 1230 secondes.
Je suis né il y a 1,7 milliard.
L'histoire est-elle l'instrument de notre liberté?
Ça ne va pas durer. Je suis né il y a 1,7 milliard 628 mille 420 secondes, mais ça ne va pas durer. Je suis né il y a 1,7 milliard 548 mille 420 secondes, mais ça ne va pas durer.
Ben non, parce que ça n'a pas duré, c'est déjà fini.
Vous pouvez nous en parler un petit peu, Jean-Michel, de...
Oui, alors c'est une commande de qui s'est faite à Marseille et dont la première a été créée au Théâtre des Bernardines à Marseille en 2006. Et donc on était 7 ou 8 poètes contemporains avec une carte blanche donc pour faire une création sonore. Donc moi je suis parti sur cette idée que finalement notre vie, en fait, la seule chose dont on soit sûr et qui soit objectif, c'est notre âge en seconde. Notre âge, évidemment, en seconde, parce que ça change tout le temps. Donc en fait, il y a plusieurs choses dans cette pièce. Au début, il y a une boucle hein, sur la première fois que c'est la première fois, etc. Hein, qui devient aussi un élément sonore, un peu comme alors parfois des espèces d'infrabasses, etc. Le deuxième élément, c'est mon âge en seconde, qui évidemment change tout le temps. Donc je dis, je suis né il y a 1,5 milliard, etc. secondes, mais ça ne va pas durer. Et je mets 6 secondes pour dire ça. Donc évidemment, ça va de 6 secondes en 6 secondes. C'est très précis. Et c'est quelque chose que j'ai continué. Là, je fais une exposition en ce moment à Saint-Ouen, à la Galerie La Couleuvre. Et j'ai continué donc cet âge en secondes. Mais dans une performance graphique. Enfin, j'ai écrit ça sur un mur, mais aussi en temps réel. J'essaie de calculer avec des années bissextiles, etc. Enfin, au plus près. Le troisième élément, c'est... Donc, plus loin, il y a une batterie, puisque je suis batteur par ailleurs. Donc, il y a aussi un élément rythmique. Et puis, il y a quelqu'un qui donne le compte à rebours de la pièce sonore, donc du temps de la pièce sonore. On entend un moment plus que 1200 et quelques secondes.
Donc plusieurs éléments...
Voilà, notamment temporels. Ouais, il y a une double temporalité. Et c'est finalement, pour moi, c'est aussi une façon de... En fait, c'est un peu une métaphore de la vie dans son rapport au temps. C'est-à-dire que la vie, c'est à la fois un stock de temps. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on stocke du temps. Mmh. Et en même temps, plus on amenuise ce qu'il y a devant. Quoi. Il y a quelque chose, on est un peu comme un curseur. Hein. Et il y a de plus en plus de choses derrière et malheureusement, de moins en moins devant.
Cette pièce donne aussi l'impression de quelque chose qui s'écoule, en fait, comme une sorte de sablier qui, d'un seul coup, petit à petit, chaque grain s'accumule, et en même temps vide une partie. Donc il y a cette sensation-là aussi.
Il y a cette obsession, et puis il y a aussi il y a de l'autodérision, parce qu'il y a on en entend un ou deux au début, il y a des phrases philosophiques qui émaillent un peu la pièce sonore, et qui sont évidemment pour me... principe d'autodérision, en fait, ce sont des sujets du bac.
D'accord.
Des sujets de philo du bac. Hein. L'inconscient est-il un destin, enfin, on a tous planché là-dessus. Donc, c'est aussi une façon de se dire qu'en fait, on n'arrête pas de penser. Enfin, on est aussi des animaux pensants, mais la pensée aussi est une pensée un peu usée. C'est toujours un peu usé, ça vient toujours d'ailleurs. Quoi.
Et je veux rebondir sur le fait que vous soyez musicien, et plus précisément batteur. Alors, justement, dans quelles circonstances êtes-vous tombé dans cette marmite même sonore et justement aussi dans la batterie à la fois d'un seul coup de passer dans le monde du livre et puis dans cette énergie qui est autre par la batterie
Bon, la batterie c'est une vieille histoire. Moi j'ai commencé à j'ai formé mon premier groupe à 12 ans, donc il y a longtemps, et j'ai j'ai jamais arrêté la batterie. Et c'est vrai que j'ai aussi commencé d'écrire gamin, quoi. Évidemment, au début, on publie des poèmes à deux balles. Enfin, on publie. Moi, j'ai jamais publié quand j'étais petit. Mais on écrit des choses un peu, voilà. Donc, j'ai toujours mené ces deux activités de front. Et puis, j'ai un peu lâché la batterie pour des raisons assez pratiques, hein, parce que j'étais à Paris et que c'était compliqué d'avoir ça dans mon appart. Mais donc je jouais en studio, je faisais des buffs, des choses comme ça. Et puis j'ai repris du service avec un groupe de punk rock dans les années 2000 jusqu'en 2010. Mais moi, il y avait une chose qui me chagrinait et qui m'intéressait, c'est que j'arrivais pas à faire le jouet entre la batterie. Mm-hmm. Et qui est vraiment un truc qui m'habite enfin depuis toujours et qui est très important pour moi aussi dans l'aspect rythmique. Mais bon, j'aimais bien tout l'univers de faire de la scène, etc. Donc j'arrivais pas à trouver le joint entre faire de la batterie et l'écriture. Et puis donc la première fois que j'ai trouvé en fait finalement un terrain où les deux où ces deux espaces pouvaient se rencontrer, c'est donc la pièce sonore qu'on a écoutée, Autobiographie.
D'accord, c'était là, vraiment la première.
Ouais. Et d'ailleurs c'est là où j'ai vraiment recommencé à jouer beaucoup. Et c'est d'ailleurs à la vertu de cette pièce sonore que j'ai refaite à Montreuil en fin 2006. Que j'ai été engagé dans ce groupe qui s'appelle Brixley.
Mm-hmm. D'accord. Et justement, ce groupe existe-t-il toujours ?
Non. Comme tous les groupes mythiques, on a splitté assez vite.
D'accord.
Je joue avec différentes formations comme ça, des buffs ou des choses comme ça.
Oui, puis même avec des poètes sonores, tels que Jérôme Gamme et cette pièce Overflow. Je voulais savoir, quand vous écrivez justement des livres, est-ce que vous écrivez un livre en disant que ce livre... est-ce qu'on écrit un livre en disant qu'il va être publié, ou est-ce que c'est un prétexte, un tremplin aussi pour dire, tiens, je vais faire une performance avec ce contenu, ou avec certaines pages, avec certains extraits aussi, qui pourraient être justement aussi interprétés. Parce que je vois que dans certains livres, il y a aussi un travail avec la typo aussi, où il y a d'un seul coup un jeu visuel. Donc je me dis peut-être un jeu aussi sonore justement.
Oui, alors c'est très bizarre parce que j'écris des textes pour la scène. Mmh. J'écris des textes pour des livres et qui peuvent éventuellement se transformer, enfin se déployer donc dans l'espace sonore par exemple ou visuel. Et puis j'écris toujours dans une conscience sonore.
Ouais, d'accord.
C'est pas justement mon côté batteur. Il y a toujours ce truc-là. Mais je pense qu'un écrivain, ça écrit aussi pour retrouver une frappe dans la langue. Enfin, je pense que c'est un des deals de l'écriture. Hein. Je pense qu'on écrit aussi pour mettre du son dans le sens, hein, et vice versa. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des passages de livres en fait que j'ai adaptés sur la scène, que j'ai sonorisé en fait, etc. Et puis parfois ce qui est marrant, c'est que parfois ça résiste. Il y a des textes moi que j'aime beaucoup et que j'arrive pas à lire sur scène. Enfin en tout cas quand je dis que j'arrive pas à les lire, hein, pas physiquement, mais qui marche pas en création sonore. Donc c'est aussi chaque texte c'est un peu son autonomie quoi.
Voilà, où le texte ne vit finalement que dans le livre.
Que dans le livre ou dans un espace visuel par exemple,
oui.
mais qui marche pas avec le son, quoi. Voilà. Bon, pourquoi, j'en sais rien. C'est peut-être moi qui m'y prends mal, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui marchent moins bien.
D'accord. Ben, on va écouter maintenant Army, et puis on va juste après ça en discuter ensemble.
Le monde défile derrière une mire et dans les graduations de ma lunette de tir. Le temps ici tourne différemment. En nu mortel ou accélération des battements de cœur à 200 pulsations minute. On passe d'un état à l'autre en une fraction de seconde et de vie à trépas en beaucoup moins que ça. Tout va toujours très vite, tout est toujours trop lent. Depuis mon arrivée dans ce pays, je ne reconnais plus ma vie. Nous circulons à pied ou à bord d'engins semi-blindés. Patrouille, surveillance, mission de sécurisation ou de reconnaissance, escorte, perquisition, renseignement. Le danger est omniprésent. Palmeur et piège, bas-côté truffé d'engins explosifs improvisés, routes peu sûres, immeubles inachevés ou en ruine depuis lesquels les snipers, toujours plus nombreux, nous prennent pour cible. Terroristes mobiles dans les dédales des faubourgs et des villages, marché aux flammes de potentiels kamikazes, densité du trafic qui nous oblige à neutraliser les véhicules qui s'approchent trop près des convois. Nous sommes engagés dans une vaste opération de contre-insurrection. Le commandement appelle ça gestion des conséquences. Les accrochages sont moins nombreux que je n'avais imaginé, mais le danger surgit presque toujours au moment où nous nous y attendons le moins. Nous devons constamment nous sentir en situation de combat, sur nos gardes, et anticiper toute attaque surprise. La menace est partout palpable. Nous pouvons nous tenir embusqués pendant des heures sur une terrasse ou un toit d'immeuble, à surveiller un lieu suspect, et plier bagages pratiquement sans avoir tiré un seul coup de feu. Nous sommes en liaison constante avec le QG, mais aussi l'hélicoptère de mission et les drones, qui balayent la zone avec leurs caméras ultra puissantes et diffusent sur de petits moniteurs des images analysées en temps réel. Au moindre mouvement, nous tirons. Il y en a toujours un parmi nous pour lâcher de temps en temps une petite rafale au jugé sur les maisons qui se trouvent dans nos lignes de tir.
Tout véhicule circulant dans le périmètre est immédiatement neutralisé. Nous sommes suréquipés. Gilets pare-balles, casque lourd muni de lunettes périscopiques, liaison radio individuelle, GPS, fusil d'assaut 30 coups automatique avec lance-grenade, lunettes de précision et lunettes infrarouges pour les missions. Arme de poing, lame de baïonnette et la arme blanche à la ceinture, poignard ou petit sabre de combat, sacoche de munitions, bouteille d'eau vitaminée à portée de aliments hydratants et énergétiques, trousse de premier secours. Il fait toujours très chaud ici, jusqu'à 50 degrés au cœur de l'été, et nous sommes vêtus en conséquence. Treillis en toile légère, aérée, rangers sous lunettes de soleil. La maintenance des équipements est top niveau. Les conditions d'hygiène sont irréprochables. Le commandement a tout prévu pour faire de nous de bons soldats. Au camp principal, nous bénéficions de matériel de communication ultramoderne, télévision satellitaire et internet. Nous passons la plupart de nos temps de repos à faire devant nos consoles de jeu ou à surfer sur internet. Emails, porno, simulateur de combat. Nous ne manquons de rien. Tout le monde a reçu une formation militaire de premier niveau dans un camp d'entraînement, là-bas, au pays. Le plus grand d'entre eux a été installé dans le désert sur une superficie de 240 000 hectares. C'est par là que je suis passé. On y simule différents types d'attaques et de situations. Voitures piégées, engins explosifs et roquettes, embuscades, prises d'otages, avec des effets spéciaux, des lasers, toutes sortes de trucs. On nous conditionne également aux situations limites, type interrogatoire musclé. C'est beaucoup moins drôle. Pour construire la dizaine de faux villages et la ville, sont le théâtre des exercices de combat de rue ou de neutralisation diverses, l'état-major a fait appel à des spécialistes de l'industrie du cinéma. Il y a quelque temps, nous patrouillons sur une route secondaire à proximité d'une grande palmeraie. Quand nous avons vu arriver un bus qui transportait une dizaine de personnes, nous avons fait signe au chauffeur de ralentir. Mais il n'en a pas tenu compte et nous avons immédiatement ouvert le feu. Le bus a commencé à zigzaguer, puis il s'est arrêté à 50 mètres de nous. Quand on commence à appuyer sur la gâchette, que le tremblement du fusil mitrailleur secoue le corps tout entier, on a beaucoup de mal à s'arrêter. Tout le monde ici adore se servir de son arme. Le tremblement du fusil mitrailleur nourrit la peur en même temps qu'il l'évacue. Et on a l'impression que toute cette saloperie pourrait être ensevelie sous le bruit des balles, écrasée jusqu'à se dissoudre dans le tremblement des machines de guerre. Puissant, maître du jeu. C'est effrayant. Le bus s'est embrasé et nous tirions toujours. Brusquement, un individu a surgi de la porte avant et s'est mis à courir en direction d'une petite baraque en béton et canis, distante d'une quinzaine de mètres du bus. Nous l'avons immédiatement criblé de balles et il s'est effondré contre la cahute. Un carton. Après cet accrochage, le sergent est allé voir le résultat et a découvert un jeune homme en t-shirt, pantalon de toile et sandales, la tête à moitié arrachée, le torse en charpie, baignant dans une grande mare de sang et de matières diverses. Nous avons encore tiré 2 ou 3 minutes en courte rafale sur les passagers qui tentaient de fuir le bus en flammes. Tout le monde criait, et puis plus rien. Alors nous nous sommes approchés sans précipitation, le doigt sur la gâchette, et avons récupéré 3 hommes encore en vie qui gémissaient en se tortillant de douleur au pied du véhicule. Nous les avons traînés un peu plus loin pour leur donner les premiers soins, mécaniquement, sans leur adresser la parole, comme s'ils n'existaient pas. Puis nous les avons chargés à l'arrière d'un blindé léger. Un gars de la section qui était monté sur le toit d'une petite maison voisine a filmé toute la scène. Tout le monde ici prend des photos et des petits films avec son téléphone pour son appareil numérique. On ne se fait jamais tout à fait à ce genre de choses. L'horreur est une horreur brutale, panique, où le dégoût de vivre s'entrelace confusément à la peur de mourir. On ne peut vraiment éprouver ça. Une peur constante, lancinante, qui paralyse tout le corps, comme un hurlement ininterrompu dans la tête. Une crampe, lancinante, qui fait jouir et qui fait peur. On vit plus vite. L'instinct de ruse et le plaisir du jeu, à balles réelles. L'horreur qui paralyse et qui fait peur, comme une crampe, brutale, panique, où le dégoût de vivre s'entrelace à la peur de mourir. On ne peut vraiment éprouver ça. Le dégoût de vivre et le plaisir du jeu, plus vite. La peur qui paralyse et qui fait peur, comme une crampe, à balles réelles. On ne peut vraiment éprouver ça. Un hurlement ininterrompu dans la tête, comme une crampe. On vit plus vite. L'instinct de ruse et la peur de mourir, qui fait jouir et qui fait peur. Quand on a goûté à cet excitant-là, on ne s'en passe plus. L'ennemi est nulle part, il est partout. Nous nous tenons toujours en alerte, régulièrement sur les checkpoints. Il y a beaucoup de trafic dans ce pays. Les grands axes sont constamment embouteillés. Il faut être très vigilant, rester sur ses gardes, le doigt crispé sur la gâchette. Le danger peut surgir à tout moment et sous des formes que l'on ne peut jamais prévoir. Le chargement de tout véhicule, 2 et 4 roues, camion, vélo, charrette, doit être ouvert et étalé sur la route par son propriétaire que nous tenons dans la ligne de mire à distance. Nous ne prenons aucun risque. Par exemple, nous limitons les fouilles au corps, sauf cas très particuliers, en raison des risques potentiels d'attentats suicides. Nous obligeons parfois les gens à se dévêtir au milieu de la route à distance respectable. Un geste brusque, suspect, hostile, un comportement douteux. Tirons sans sommation. Un employé de bureau partant à son travail peut cacher un rebelle. Un paysan poussant sa charrette.
La batterie qui vient rythmer, encore une fois, les mots et cette matière qui s'articule et qui est encore une fois une sorte de pulsation, une onde de choc. Jean-Michel Espitalier est une onde de choc. C'est pas mal, hein ?
Ouais, joli.
je vais en profiter pour lire, si vous me permettez, Jean-Michel Espitalier, un passage de votre premier livre, Pont de frappe. J'aime beaucoup le titre. Je trouve que ça va bien aussi avec, avec ça, avec la batterie, avec, je sais pas, pont de frappe. Il y a quelque chose aussi avec la typographie, puisque celui-ci, il y a vraiment une sorte de travail, l'impression aussi, avec ce papier, on sent encore une fois le rapport typographique au livre. Et puis, voilà, un premier passage qui est donc en Europe. Donc je vous invite, auditeur, il est encore disponible, oui ce...
Alors, il n'est plus disponible, mais non, il ressort l'an prochain mes premiers livres ressortent l'an prochain chez Flammarion.
D'accord.
En janvier, dans ce an.
Donc, comme ça, je me fais monter le suspense.
Parfait.
Vis-à-vis donc de ce premier livre, qui est donc paru en 1995. Alors, le passage s'appelle « En Europe ». L'Europe. La grande Europe des chemins de fer et des traités diplomatiques. L'Europe des premiers voyages en ballon. L'Europe des glissements de frontières, des petits duchés, et des monarques itinérants, l'Europe des reconstructions, l'Europe du limon, des synclinaux, des terrains moréniques, l'Europe des mers de glace et des cigognes, les tramways à cloche de la grande ville européenne, les funiculaires, les wagonnets, les roulottes d'Europe, l'Europe des cartes d'état-major, l'Europe des guêtres à boutons, des baïonnettes, des champs de betteraves, la vase, la pêche blinde, le noir grisou d'Europe, l'embâcle et les traités diplomatiques, les beffrois, les jacquemarts, les Glockenspiel, des grandes places d'Europe, l'Europe des tailleurs de marbre, des bûcherons, des éclusiers, l'Europe des colporteurs et des montreurs de singes, les cabanes à outils et les lampisteries européennes, l'Europe des éoliennes, des châteaux d'eau et des usines à gaz, l'Europe des manufactures dans les vallées alpines, l'Europe, la grande Europe des ghettos, des hangars à verrières, les pogroms et les traités diplomatiques, l'Europe des vieux parlers, des habits, des fanfares, l'Europe des chairs, des phylactères et des bois vernis de bibliothèques, les règles graduées, les inventions européennes, il y a l'Europe des symphonies et des prières. On a fait voyager, en Europe, des gens dans des fourgons à truies. On a dressé, au cœur de la forêt européenne, des bâtiments avec chaudières et chevalets. L'Europe des meules et des crochets de boucherie. La chaux vive et les traités diplomatiques.
Bravo.
Merci, merci. Justement, est-ce que certaines personnes viennent vous voir pour faire justement la démarche, que ce soit des danseurs, des performeurs, des acteurs, pour réinterpréter soit un livre, soit un passage de votre livre ?
Alors, ils viennent nous voir ou pas, ils font
ça. Ah oui.
Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, j'aime bien justement cette... un texte, c'est comme un programme en quelque sorte, mm-hmm. Et puis après il est réutilisé quoi, en copyleft.
Carte blanche.
Ouais. Non, d'ailleurs c'est pas toujours en copyleft parce que.
Oui.
Non. Alors par exemple mon dernier bouquin que vous avez pas cité, qui s'appelle L'invention de la course à pied,
oui.
a été mis en scène par Yves-Noël Génaud créé au mois d'octobre.
D'accord.
Au théâtre, un nouveau théâtre à Marseille, j'ai oublié son nom. Donc là, c'est autre chose. Voilà, donc c'est une mise en scène d'un texte, mais effectivement, il y a eu des musiciens qui ont repris des choses, des troupes de théâtre, même parfois des gens qui lisent, enfin des comédiens qui mm-hmm. reprennent des textes et qui les lisent. Ouais,
ouais. Et justement, est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce que vous gardez une certaine forme de... Voilà, si c'est votre texte, donc est-ce que vous... Un petit grain de sel ?
Non, pas du tout. Et je n'y tiens pas parce que sinon, je pense que ça serait compliqué. Moi, j'aime bien, une fois que j'ai fait quelque chose, ça part dans la nature et puis c'est... C'est même réécrit, quelque chose de l'ordre de la réécriture. Alors après, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais ça, c'est pas grave, enfin, c'est pas le propos. Mais moi, j'aime bien au contraire, voilà, j'ai fait quelque chose et après, chacun s'en saisit.
D'accord.
Et on fait ce qu'il veut.
Donc voilà, le texte après vit,
il vit
sa vie. Quoi.
Ouais, il vit sa vie tout seul.
À travers différentes voix. Alors, on a l'habitude ici, en recevant justement des invités sur Radion, de leur offrir des cadeaux. Et surtout leur offrir un cadeau sonore. Alors on va écouter tout de suite vos trois cadeaux sonores et puis après j'aimerais avoir votre impression vis-à-vis de ça. Donc c'était trois sons d'atmosphère de train, donc des trains qui passent, qui se croisent. Et puis là, on entend d'un seul coup un klaxon, je crois que c'est le train à vapeur. Alors qu'est-ce que ça évoque chez vous, Jean-Michel Espizali ?
Moi, j'adore les trains et particulièrement le bruit des trains. C'est quelque chose qui me rend très heureux, qui me fascine. Depuis tout gamin et encore aujourd'hui, je passe, que quand j'ai le temps, si, quand j'ai l'occasion, il m'arrive de passer une heure ou deux au bord d'une voie ferrée, comme un gamin. Ouais, j'adore ça. C'est quelque chose qui me... C'est ce côté, c'est cette espèce d'attente. Une voie ferrée, c'est toujours très, très, très calme, très silencieux. Ouais, on peut être dans quelque chose de calme et puis on attend. Il y a cette dimension de l'attente, donc de la tension. Il y a un train qui peut arriver au bout de 3 minutes, comme au bout d'une heure, on ne sait jamais, bien sûr.
Voulez-vous vous laisser surprendre ou...
Oui. Donc je me mets quand même en dehors des voies. Mais, mais j'aime beaucoup ça. Moi, j'allais beaucoup quand j'étais jeune et chaque fois que je retourne dans la région, j'y vais. Ça peut paraître ridicule, mais c'est comme ça. À Mandelieu, donc à côté de Cannes, sur la Côte d'Azur. Et j'allais en vacances avec mes copains là-bas quand j'étais jeune, on allait camper. Et je passais des heures, donc sur un pont, enfin à côté d'un pont, parce qu'il y avait une très grande ligne droite, donc les trains arrivaient à 150 à l'heure, c'était super beau. Et moi j'aime beaucoup donc bon, cette atmosphère. Je suis pas du tout un connaisseur des chemins de fer. C'est pas quelque chose qui me, si ça peut m'intéresser, mais je suis pas, je vous dirai pas la locomotive machin etc. Mais ce qui me plaît donc, c'est d'abord cette attente et puis l'arrivée de quelque chose de très massif. Mm-hmm. En même temps une espèce d'élégance, un train c'est ça
cette ligne.
Ouais c'est une ligne et puis ça glisse dans le paysage. Mm-hmm. Enfin c'est quelque chose de très très beau. Et puis le son qui est absolument mm-hmm. génial, notamment ces cadences. Enfin si on a la chance d'être sur un écart entre deux rails. Il y a ce truc binaire, ouais, c'est super beau en fait. Mm-hmm. Je trouve ça
c'est battement finalement.
Ah ouais c'est magnifique. Et même quand on voyage en train, alors le TGV un peu moins parce que ça va très vite et puis je crois que les rails sont très très longs, ce qui fait qu'il y a très peu de, mais si on prend un train Théos ou je sais pas quoi, il y a toujours ce truc. Et je sais pas si vous savez, enfin c'est assez connu en fait, mais les premiers bluesmen en fait, on dit aussi le jazz, je le savais pas pour le jazz, mais je crois que c'est pareil. En fait, se sont vachement calés sur les bouts de train parce que les ancêtres du rock en fait étaient des gens qui étaient des orchestres, donc pour dire de bal en fait, et qui voyageaient beaucoup en train, et qui allaient de coupe de bois en coupe de bois dans le sud, en Louisiane. Et évidemment, entre deux concerts, entre deux balles, ils répétaient donc dans les trains. Et peu à peu, ils ont commencé à se caler sur la cadence de sur le battement de la roue sur le rail. Et ça, c'est le rock, ça.
Voilà. D'accord. Et justement, enfin, j'ai pas le souvenir que vous ayez fait une pièce sonore sur le train ou...
Non, vous avez raison, ça va venir. Mais en revanche, j'avais filé à France Culture pour l'anniversaire des ACR, alors je ne sais plus lequel, il y a 2 ou 3 ans. On m'a demandé de donner un son et j'avais donné justement le passage d'un train, mm-hmm. qui était très très beau, dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Mm-hmm. Et je ne savais pas qu'il y avait ce cadeau. Voilà, pour moi, c'est une puissance sonore. Enfin, il y a quelque chose de. C'est du son brut, en même temps, c'est du son qui est complètement artificiel, évidemment. Ouais.
Propice à la création aussi.
Pardon ?
Propice à la création aussi.
Ah oui, moi je pense qu'on peut... Alors c'est même dangereux parce qu'il y a eu quand même vachement de choses qui ont été faites là-dessus, à partir des trains.
Puis une histoire aussi. Qui...
Et puis oui. Et puis bon, il y a la chanson, même la poésie, la littérature, enfin, elle est pleine de trains en fait. Hein. Donc c'est toujours compliqué parce qu'il faut, ouais, il faut trouver autre chose. Quoi. Mais en tout cas, en termes de son brut, hein, sans en faire un discours et sans travailler à partir de ça, moi je trouve ça absolument. C'est pour moi, c'est un des plus beaux sons de la Terre.
Ah oui.
Carrément.
Ça a fort. Et justement, l'actualité, votre actualité, Jean-Michel Espitalier, donc une exposition.
Une exposition qui a démarré fin novembre et qui se poursuit jusqu'au mois de février, jusqu'à début février. Donc, tu as La Couleuvre, qui est un collectif d'artistes à Saint-Ouen, dans Seine-Saint-Denis. On est 3 artistes. Il y a un peintre qui s'appelle Jean Nani. Et il y a un autre dont j'oublie le nom là sur l'instant. Et donc moi justement là c'est mon côté, extension de la lutte en fait sur donc avec d'autres moyens. Donc c'est le côté visuel de mon travail, de mon écriture ou de ma réflexion. J'ai fait une pièce sonore qui est un hommage à Shining, le film de Kubrick. Il y a des mises en espace, des mises en scène, des mises en affiche par exemple de certains textes. Il y a donc cette performance graphique à partir de Je suis né il y a, etc.
Mais, qui sera en boucle qui,
Non, c'est sur le mur en fait.
D'accord. Donc là, elle existe visuellement.
Oui, elle existe visuellement. Voilà. Mais il y a surtout c'est une grosse installation à partir de Shining. Vous avez vu le film là, quand Mr. Terrence en fait, tape toujours cette même phrase All work and no play, Make Jack, Dull Boy, je devrais le savoir parce que. Donc j'ai fait une grosse installation comme ça, j'ai même retrouvé la machine à écrire, enfin la machine à écrire qui se trouve dans le film, etc. Voilà.
D'accord. Et puis un livre,
des affiches. Alors, vous parlez de mon actualité ?
Oui.
Ouais, alors, ben, qu'est-ce que j'ai comme actualité ? En fait, je travaille beaucoup, en ce moment, je travaille sur deux bouquins. En fait, on republie, il y a une nouvelle édition de Caisse à outils chez Pocket qui sort en mars, donc là, je la réactualise.
D'accord.
Et puis, pas mal de choses, pas mal de lectures, de performances, etc. Je fais un truc avec Olivier Mélano à Montpellier en mois de mars, à Nevers en mois de février. Bon, après, j'ai pas mal de lectures, choses comme ça.
D'accord, d'interventions publiques.
Des performances.
D'accord, très bien. Et on va écouter Tête à Claque.
Tête à Flash.
Tête à Flash, qui est aussi un morceau rock'n'roll là pour le coup.
Bah, c'est une parodie de morceaux un peu à deux balles, mais si je peux en parler de trois secondes
parce que
en
fait c'est... Mais à la régie ils sont prêts, il y a pas de souci, il y a pas de problème à tout moment.
En fait c'est un on publie un livre du photographe qui s'appelle j'oublie toujours son nom, Olivier Roller, qui sort un livre avec 40 photos d'écrivains. Dont je fais partie. Et l'éditeur demande à tous les écrivains d'écrire un texte par rapport à la photo, par rapport à ces photos. Donc c'est des portraits en fait. Hein. Et moi je suis un peu paralysé parce que je me dis qu'est-ce que je peux écrire sur la photo pour pas être ridicule. Je veux dire, je suis pas Didier Berman, je suis pas Roland Barthes, etc. Donc il faut être ultra bon, mais sur la photo il est quand même très très bon, donc il faut bosser. Soit il faut biaiser. Donc je fais un mauvais poème.
Vous êtes biaisé.
J'ai biaisé. J'ai fait un mauvais poème que j'ai appelé Tête à Flash. Donc sur mon rapport, enfin sur ma gueule, quoi, voilà. Et puis et un jour donc l'éditrice me dit on fait un truc pour lancer le bouquin au Hall de Schaerbeek à Bruxelles. Il faut que vous veniez parce que vous êtes lecteur, enfin vous êtes un performeur, donc vous êtes ok, j'y vais. Mais je lui dis le problème c'est que moi ce que je peux pas lire ce texte là parce que c'est un poème un peu cucu, quoi, en fait c'est un texte de chanson. Mm-hmm. Donc je peux pas lire ça, c'est un bien souci, etc. Et du coup je me dis tiens, ce que je vais faire, je vais en faire une chanson, je vais le mettre en musique. Donc j'ai appelé Laurent Prex, donc qui était le guitariste du groupe. Et donc on a composé cette chanson. Donc je chante, je joue de la batterie. La batterie en fait avait été faite avant pour autre chose. Donc il a fallu caler tout le morceau sur la batterie. Ce qui est l'inverse en général de ce qui se fait. Hein. Et voilà, donc on peut l'écouter.
Le morceau est live ou...
Non, il n'est pas live. Non.
D'accord.
Alors moi, en live, je chante en playback.
D'accord.
Je suis pas celui dont j'ai l'air. Merci à Perrine et à Jean-Michel. Nous les retrouverons plus tard. C'était la révélation du soir. Perrine Clément n'est pas Jean-Michel Espitalier. Maintenant, reste à savoir si Jean-Michel Espitalier est Perrine Clément. Quoi qu'il en soit, merci Perrine, merci Jean-Michel pour cette humeur du soir.
Vous venez d'écouter Intimité, une pièce réalisée par Francine Avdaba, une élève de deuxième année A.
Et tout de suite, cette pièce a été réalisée l'année dernière et se nomme Essoufflement numérique par Tanguy Claire.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 191 192 193 194 195 196 197 198 199 201
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,